maintenant on y va. Donc on va commencer Bezrat Hashem aujourd'hui, notre premier résumé sur les 53 chapitres du Tania, enfin de la première partie du Tania. Alors, la vérité, c'est un peu compliqué de faire un résumé sur 4 ans de cours, mais bon, on va essayer au moins de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pendant 4 ans. On va pas tout répéter, on peut pas tout répéter ce qu'on a fait en 4 ans, mais au moins on va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé, quel était le plan, où on a démarré, où on a essayé d'arriver, où on est arrivé, qu'est-ce qu'on a fait. Alors, donc je me suis basé sur ce qu'on avait sur des résumés qu'on avait déjà fait. Bon, je les ai un peu modifiés, bien sûr. C'est pour ça que vous avez trois feuilles. Une qui commence par 1, 1 à 8, la deuxième 9 à 17, et la troisième 18 à 25. Mais j'ai fait à part ça un autre grand tableau, dans lequel on voit 1 à 25 comprendre le champ de bataille. Pourquoi j'ai fait ça? Puisque dans les trois autres feuilles, on voit pas comment c'est une suite. Comment c'est une suite et comment du chapitre 1 à 25, ça forme un seul bloc. C'est pour ça que j'ai fait un autre tableau. Donc vous regardez celui que vous voulez. Moi, je vais me baser plutôt sur le détaillé qu'on est dans le cours de maintenant. Mais gardez à côté le grand tableau. Comme ça, vous pouvez suivre la structure. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, l'Admor HaZaken a commencé l'introduction du Tania. On appelle le char du Tania. La page de garde du Tania. On dit que la page de garde a été écrite par l'Admor HaZaken. Et dans cette page de garde, l'Admor HaZaken a dit, donc la page de garde, c'est très important. La page de garde, on dit qu'en général, dans la page de garde, c'est comme le titre d'un livre. Dans le titre, un bon auteur, il est capable de mettre dans le titre, il est capable de mettre tout son livre. Donc, dans la page de garde, qu'est-ce que dit l'Admor HaZaken? L'Admor HaZaken a appelé ce livre Sefer Shel Benonim. Tout d'abord, dans son humilité, il a appelé ça Likutei Amarim. Likutei Amarim, ça veut dire recueil. Ça veut dire qu'en d'autres termes, il dit, bon, moi, j'ai fait qu'un recueil, j'ai rien rajouté. Bon, c'est l'humilité. Mais à part ça, il a dit un Nikra Beshem Sefer Shel Benonim. Ce livre est appelé le livre des Benonim. Vous allez voir, dans tout le Tania, on n'arrêtait pas de tourner autour du Benoni. On expliquera après qu'est-ce que ça veut dire le Benoni. L'Admor HaZaken a expliqué que qu'est-ce qu'on va expliquer dans ce livre? On va se baser sur le pasouk dans la Torah, qui dit « Kikarov elecha adavar me'od beficha uvilvafra la'asoto ». Dieu, il s'adresse à Moshe Rabbeinu, et au travers de Moshe Rabbeinu, comme la Gemara a dit au Bnei Israël, et il leur dit, Kikarov elecha davar meot, que la chose, ça veut dire aimer et craindre Dieu, c'est accessible. Beficha ou vilvapra la soto, ça veut dire, comme on a expliqué, dans la pensée, dans la parole et dans l'action. Donc, il a dit que le but du Tania, c'est d'expliquer comment c'est accessible. On n'a pas dit que c'est facile, Karov, ça veut pas dire que c'est facile, ça veut dire que c'est accessible. Comment c'est accessible d'avoir l'amour et la crainte de Dieu? Alors, pour expliquer ça, d'abord, là, bon, c'est un autre point aussi que j'ai pas mis dans le tableau. L'Admor HaZaken a écrit aussi une introduction. Dans l'introduction qu'il a écrit au Tania, il explique pourquoi il a écrit le Tania. Il dit que jusqu'à présent, il avait l'habitude que lorsque les gens avaient des problèmes, ils venaient le voir. Ils venaient le voir, ils lui posaient des questions, ils répondaient. Il expliquait qu'avec le temps, d'abord il avait de moins en moins de temps, et en plus il avait de plus en plus de monde qui venait le voir, donc c'était impossible. C'était impossible techniquement de répondre à tout le monde. Il n'y a pas le temps, techniquement. Donc c'est pour ça qu'il a dit, j'ai écrit un livre. Et comme il a dit dans l'introduction, il a dit Tshuvot le Chol HaShelot. Il a dit dans ce livre, il y a des réponses à toutes les questions. Enfin, toutes les questions qu'on lui a posées en tout cas. Toutes les questions qu'on lui a posées pendant, je sais pas, 20-30 ans. Dans ce livre-là, il a dit j'ai mis toutes les réponses. Maintenant, il a dit je sais que pas tout le monde saura les trouver. Donc, il demande aux rabbanim de chaque ville d'aider les gens à trouver les réponses dans le livre. Mais il a dit clairement, il a dit Rashamti Tshuvot al Chol HaShelot. Le Mishmeret Leot. Ce qu'il avait dit dans l'introduction. Alors pour vous dire, on dit l'Admor HaZaken a passé vraiment plusieurs années à écrire et à calculer chaque mot, comment il devait écrire. Et on dit chez Chassidim, on dit que l'Admor HaZaken, lorsqu'il a écrit son livre, Beruach HaKodesh, il a vu toute personne qui allait étudier le Tania par la suite. Le Rabbi l'a répété ça aussi une fois.
Il t'a vu.
Donc c'est pas rien. C'est pas rien. Donc on a commencé dans le Tania, d'accord? Première chose, qu'on va expliquer donc dans le chapitre 1 à chapitre 25, on va parler du champ de bataille. Ah, ce soir, il paraît qu'il y a un match. Je sais pas de qui entre qui et qui, mais...
C'est pas moins important que celui-ci.
Donc, du chapitre 1 à 25,
c'est grave.
On s'est focalisé sur le match. Il y a un champ de bataille. Il y a un champ de bataille entre l'âme divine et l'âme animale. Alors, pour comprendre quel est le champ de bataille, quels sont les objectifs, quelles sont les divisions, quelles sont les armes, etc., on a besoin de faire le chapitre du chapitre 1 à 25. Dans le chapitre 1, l'Admor HaZaken d'abord a expliqué la définition Donc vous suivez la feuille que vous voulez. Hein. Moi, je vais suivre dans la feuille 1 à 8, conception spirituelle du juif. Mais gardez l'autre à côté, la grande feuille. Ça, vous pouvez suivre là. Donc, dans le premier chapitre, l'Admor HaZaken a tout d'abord expliqué le concept, des deux âmes. C'est quoi les deux âmes? Il a dit qu'on a en nous deux âmes, l'âme divine et l'âme animale. L'ordre avec lequel il a commencé, c'est d'abord l'âme animale, après l'âme divine. Pourquoi d'abord l'âme animale? Puisque c'est elle qui vient en premier. L'âme divine va venir uniquement plus tard, lorsqu'on sera à la bar mitzvah. En tout cas, tant qu'on n'est pas à l'âge de la bar mitzvah ou bat mitzvah, l'âme divine ne se dévoile pas. L'âme divine n'est pas dévoilée. L'âme divine va se dévoiler uniquement à partir de la bar mitzvah. Mais la première,
elle se dévoile.
Elle est déjà là depuis la conception du bébé.
Donc c'est pas elle vient. Elle
oui. Et elle se dévoile. Donc on a deux âmes. On a expliqué qu'il y a deux âmes. Comme c'est écrit, un shamot ani asiti. Et Rabbi Chaim Vital explique, hein, il se base sur le verset du roi Salomon qui dit que Dieu il dit j'ai fait des neshamot. Il explique là-bas Rabbi Chaim Vital, il dit que de quoi on parle quand on parle de neshamot? On parle de que chacun en nous a deux âmes. Une âme animale et une âme divine. Alors c'est quoi l'âme animale? C'est quoi l'âme divine? L'âme animale, je lis ici, deux âmes. Donc l'âme animale, c'est ni bon ni mauvais. Alors, c'est vrai qu'en français, quand on dit âme animale, on a tendance, on s'imagine qu'il y a un animal qui est là et qui a envie de nous déchiqueter. Mais c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça l'âme animale. L'âme animale, c'est l'âme qu'on utilise en vérité 99,9% de notre temps. Quand on mange, quand on boit, quand on dort, tout ce qui est à part Torah et mitzvot, c'est-à-dire si je suis pas en train d'étudier ou si je suis pas en train de faire une mitzvah, c'est quelle âme qui est en train d'être actionnée à ce moment-là? C'est l'âme animale. D'accord? Pourquoi j'apprends l'appel l'âme animale? Puisque par rapport à ça, on est comme des animaux. Il n'y a pas de spécificité de l'homme. Par rapport à ça, on est comme un animal. C'est pour ça qu'on l'appelle l'âme animale. Alors, ensuite, on avait expliqué, ceux qui se rappellent, c'était écrit Klipat Noga. Klipat Noga, ça veut dire quoi? Klipat Noga, on avait expliqué que dans les forces du mal, il y a plusieurs catégories.
Ça veut dire on est comme un D'accord. animal. Je comprends pas ce que tu veux dire.
Alors.
Non, je vais pas trop parler parce qu'après on fait des réflexions.
Non, ici on fait des remarques.
On expliquera après.
On est là pour parler ici.
Non, parce que.
On expliquera après.
Hein?
Quand je marque des fautes, non, parce que sinon on va.
Non, mais on a l'impression qu'on est comme un animal lorsqu'on fait pas mise au défi.
Non, pas du tout. J'ai pas dit qu'on est comme un animal. J'ai dit c'est le nom qu'on lui a donné. Le nom qu'on lui a donné parce que ça représente pas la spécificité du juif. Alors. Donc. L'Admor HaZaken a expliqué, on a l'âme animale. L'âme animale, on a expliqué longuement. D'accord? L'âme animale, c'est l'âme qui se trouve chez les juifs et chez les non-juifs, chez les deux. Et c'est l'âme avec laquelle on fait la majorité de ce qu'on fait pendant la journée. D'accord? Et donc, on va devoir bien sûr la mettre à contribution dans notre travail. Parce qu'on ne peut pas dire, bon, moi je m'en occupe pas. Tu ne peux pas t'en occuper. Tu manges, tu bois, tu dors, ça y est, elle est déjà mise à contribution. Ça, c'est l'âme animale. Dans le deuxième chapitre, qui s'en a expliqué, on a parlé de l'âme divine. Là, on a expliqué l'âme divine, c'est autre chose. L'âme divine, il a ramené ce que le Zohar, il dit, que Neshamot Israël alou et Marshava. Il a expliqué, il a dit que les Neshamot du peuple juif viennent de la pensée d'Akadosh Baruch, ça veut dire quoi? Il a dit, de la même manière qu'on voit qu'un enfant, il vient du plus profond de ses parents, du mort de ses parents, bon, je vais pas rentrer dans tous les détails, mais on a expliqué qu'un enfant, comment ça se fait qu'un enfant ressemble à ses parents? Parce que l'enfant provient du plus profond de ses parents, de son père et de sa mère. De la même manière, la deuxième âme, enfin celle qui vient en deuxième, l'âme divine, c'est une âme qui est une partie d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, il dit tout de suite, ne cherche pas à comprendre ça veut dire quoi, partie d'Akadosh Baruch Hu. D'accord, on avait amené ce que Maïmonide a dit, ne cherche pas à comprendre ce que ça veut dire, mais en tout cas, c'est clair, c'est écrit que cette âme-là est une partie d'Akadosh Baruch Hu. D'accord, donc ça, c'est les deux acteurs. On a une composition, l'âme divine, l'âme animale. Maintenant, un point qu'il a expliqué longuement dans le deuxième chapitre, il dit que ces composants de âme divine et âme animale sont valables chez tout le monde. Tzadik, Racha, Benoni, tout le monde. Il n'y a pas une personne qui a un peu plus de l'un, un peu plus de l'autre. Ça n'existe pas. Toute personne du peuple juif a ces deux composants, l'âme divine, l'âme animale. D'accord? Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qui fait la différence entre les hommes? Qu'est-ce qui fait qu'un arrive plus vite, l'autre arrive moins vite, un arrive mieux, l'autre arrive moins bien? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas lié à l'âme divine, l'âme animale. L'âme divine, l'âme animale, tout le monde l'a. Et tout le monde l'aura. C'est à partir du chapitre 3 hein, qu'on va commencer à comprendre qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait qu'il y a des différences, qu'est-ce qui fait les différences entre les uns et les autres. Donc c'est là que si vous suivez le grand tableau, on parle de la conception. De manière générale, la composition, on a dit, il y a l'âme divine, l'âme animale. Mais après, quand on rentre dans la conception, là, on va voir que c'est plus la même chose. Alors, la conception des âmes, c'est plus la même chose. Alors, c'est quoi la conception? On a expliqué que et l'âme divine et l'âme animale ont... Alors ici, j'ai séparé en trois. Reprenez le grand tableau, ce sera peut-être plus simple. Après, on repassera au petit tableau. Donc, j'ai séparé dans le tableau, donc on a les acteurs. Composition, on a expliqué l'âme divine, l'âme animale. En dessous, on a conception. Donc, dans la conception, on a trois sous-catégories. On a les disphirotes, les facultés communes en interne, les moyens d'expression et les moyens de communication. C'est-à-dire, c'est la conception de l'âme. Une conception qui est commune à tout le monde, à toute l'humanité. Toute l'humanité a cette conception. Première partie de la conception, c'est quoi? C'est les facultés communes qu'on a en interne. Ça, pour ça, je vous demande de repasser au tableau plus en détail. Excusez-moi si on bouge un petit peu. Alors. Donc, prenez dans le grand tableau l'âme divine, nefesh et elokit, structure de l'homme. Comment on est structuré? Structure de l'homme, les 10 facultés. Ça, c'est une notion qui est revenue très très souvent dans le Tania. 10 facultés qu'on a de manière innée en nous. Et qui sont valables et chez l'âme divine et chez l'âme animale. Partout. Toujours, il y a toujours, c'est une constante. Il y a toujours, c'est toujours construit autour de ces 10 facultés. C'est quoi les 10 facultés? Il y a 3 facultés intellectuelles. Conception, perception, attachement. Donc j'explique. Conception, ça veut dire lorsqu'on a la conception de l'idée. On l'avait appelé ça le flash dans le chapitre 3. Deuxième étape, c'est lorsqu'on a la perception, c'est-à-dire qu'on comprend l'idée. Et troisième étape, c'est lorsqu'on a tellement compris l'idée qu'on s'attache avec l'idée, ça fait partie intégrante de nous. Et ça, c'est quelque chose qui est valable partout. Ça veut dire qu'on le retrouve et dans les forces du bien et dans les forces du mal. C'est une constante. C'est la structure. La structure même de l'âme, d'accord? Parce que c'est là qu'on comprend. Donc, d'accord? C'est pas la même chose. Donc, il y a encore après les questions, s'il te plaît, parce que sinon on va pas s'en sortir. Écris tes questions, avec plaisir, tu poses les questions que tu veux après, mais on va pas s'en sortir sinon.
Prenez des questions par mail.
Non, écris dans ton papier. Non, sérieusement. Si vous voulez, on marquera, regardez ce qu'on va faire. On va marquer une pause à la fin de chaque feuille, voilà, 1 à 8, à la fin du 8, on marque une pause, vous posez les questions, après on avance, sinon on va pas s'en sortir. Écrivez vos questions, si vous avez un stylo. Voilà, je vois que t'as un stylo, avec quelque chose, hein.
Oh. Lui, il est au niveau de la perception, donc il s'est attaché à la question.
Bien. Donc, on a toujours, donc c'est une constante, toujours. C'est-à-dire, et dans l'âme divine, et dans l'âme animale, et chez les juifs, et chez les non-juifs, toujours c'est une constante. Toujours, on a toujours l'intellectuel en 3 étapes. Toujours, il y a l'idée, ensuite on la développe, et ensuite on s'y attache. Toujours. Et dans les forces du bien, et dans les forces du mal. Et quand je vais faire une mitzvah, et quand je vais faire une avéra. Ensuite, les 7 autres facultés, c'est les émotions. Donc on a Chesed, Gvura, Tiferet. Vous avez en dessous 7 types d'émotions, donc bonté, sévérité et leur harmonie. En dessous, on a triomphe, majesté et transmission. Je ne peux pas m'arrêter sur chaque détail parce qu'on l'a déjà expliqué plusieurs fois. Et enfin, royauté et autorité. On a expliqué longuement, plusieurs fois, comment dans ces 7 noms qu'on a cités ici, d'accord, de manière générale, on a 2 axes. La bonté, la sévérité, ou la rigueur si on préfère. Et au milieu, on a l'harmonie. Mais après, on a différentes variantes. Triomphe, majesté, transmission. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. En tout cas, ce qu'on a expliqué, c'est que ces types d'émotions-là, on les retrouve et dans le bien et dans le mal. Et ça, c'est une structure qui existe toujours. Qui existe et chez l'âme animale et chez l'âme divine. C'est important de comprendre ça. Pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce qu'avec ça, ça va nous permettre de comprendre par la suite le combat qu'il y a entre l'âme divine et l'âme animale. Que finalement, ils travaillent avec les mêmes outils. C'est pas qu'un, il travaille avec la Torah, l'autre, il travaille avec autre chose. Ils travaillent avec les mêmes outils, c'est la même structure. Quand par exemple, je vous donne un exemple, quand par exemple, je suis en train de me battre avec mon Yetzer Hara, mon Yetzer Tov il dit j'ai envie d'étudier la Torah, mon Yetzer Hara il me dit j'ai envie de faire une bêtise. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Qu'est-ce qui est en train de se passer intérieurement? Ce qui est en train de se passer, c'est que mon Yetzer Tov développe la bonté, donc la bonté, c'est-à-dire il a envie de s'approcher d'une mitzvah, et mon Yetzer Hara développe la bonté vers le mal, ça veut dire il a envie de s'approcher du mal. La bonté, c'est-à-dire vouloir s'approcher de quelque chose. C'est des facultés internes, ça. Donc quand on a un combat entre les deux, ben c'est ce qui est en train de se passer. On a un combat entre deux, entre l'âme animale et l'âme divine, mais rappelez-vous qu'ils ont toujours la même conception. On est d'accord? Ensuite, on ira jusqu'à la fin de la page, je repose 12 questions. Ensuite, on a expliqué, d'accord, dans le chapitre 4, on a parlé des moyens d'expression. Donc rappelez-vous, la structure commune, toujours la même. Les 10 facultés, 3 intellectuelles et 7 émotionnelles. Ensuite, on a les moyens d'expression. Les facultés, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de moi. Par exemple, au fond de moi, je suis plutôt bon, plutôt rigoureux, plutôt etc. Ça, c'est ce qu'il y a au fond de moi. Mais ça n'engage pas mes actions. Ça n'engage pas ma parole, et ça n'engage pas mes pensées. Alors, c'est, là, c'est un point très très important qu'a expliqué le Bon Razaka dans le chapitre 4, et je pense que c'est une base pour tout le Tania. Il a expliqué que c'est pas parce que j'ai quelque chose au fond de moi que mon comportement, enfin ma pensée, ma parole et mon action doit suivre mes facultés internes. Imaginez-vous quelqu'un, il est nerveux. Il est nerveux. Vraiment, il est nerveux. Donc quelqu'un qui est nerveux, ça veut dire qu'il a en soi de la rigueur. D'accord ? Il a de la rigueur. Maintenant, la rigueur, il peut l'utiliser soit dans l'akdoucha, pour être rigoureux dans l'akdoucha, soit il peut l'utiliser dans le mal. C'est quoi la rigueur dans le mal ? Ben, il va s'énerver. Et un jour, il va s'énerver. Ça va exploser. Attends le tania, c'est grâce déjà là. Qu'est-ce qu'il va dire ? Il va dire, c'est pas de ma faute. D'accord ? C'est pas de ma faute, je suis né comme ça, qu'est-ce que tu me veux ? Et c'est là que vient le chapitre 4, il dit, non. On n'est pas en train de dire que tu es né tzaddik, et c'est possible qu'au fond de toi, tu as une mida, une faculté que tu devrais arranger, c'est possible. D'accord ? À 100%. Mais, ça n'engage pas l'expression. C'est-à-dire, c'est pas parce que j'ai une faculté au fond de moi que je dois obligatoirement l'exprimer. L'homme est maître de l'expression de ce qu'il a au fond de lui. Il fait ce qu'il veut. Je dis ce que je veux, je pense ce que je veux, je fais ce que je veux. Personne ne pourra m'imposer ce que je dois faire. Ça, c'est très très important. C'est une base du Benoni. D'accord ? Donc, dans les mots, moyen d'expression, les trois vêtements. Il appelait ça un vêtement. Pourquoi on appelait ça un vêtement ? Parce que de la même manière qu'un vêtement, on peut l'enlever et le mettre comme on veut. D'accord ? Personne ne me dira ce que je peux mettre ou pas mettre le vêtement. De la même manière, la pensée, la parole et l'action, je les mets, je les enlève comme je veux. Quelqu'un qui est rigoureux, il ne peut pas enlever cette mida. En général, on peut s'habituer avec le temps à se travailler. Quelqu'un qui est né nerveux. Il y a des gens qui naissent nerveux. Ils peuvent s'habituer avec le temps à se contrôler. Mais quelque part, ils auront toujours ça au fond d'eux. Ça, c'est pas quelque chose qui s'enlève, ça s'enlève pas. Par contre, l'expression, ça veut dire ce que je vais penser, ce que je vais dire et ce que je vais faire, ça, je fais ce que je veux. C'est comme un vêtement. J'enlève, je remets. Je dis des bêtises, je dis des bonnes choses, je fais ce que je veux. Personne ne pourra m'en empêcher. Ça, c'est chapitre 4. Ensuite, dans chapitre 5, donc toujours dans la conception de l'âme. Donc, on a parlé dans la conception de l'âme, enfin de l'homme. Donc, on a parlé des facultés internes, 10 facultés internes. On a parlé des moyens d'expression. Ensuite, on parle des moyens de communication avec Dieu. C'est-à-dire que cet homme qui est ici, il doit communiquer avec Dieu. Comment il communique avec Dieu ? Il communique avec Dieu au travers de la Torah et des mitzvot. Alors, la Torah et les mitzvot vont représenter différents aspects de l'âme. D'accord ? On avait dit que la Torah, ça c'est quelque chose qu'il avait expliqué de très très fort dans le chapitre 5, il avait expliqué que quand j'étudie la Torah, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Les mots de Torah vont faire partie de mon cerveau. Puisque quand je retiens un Dvar Torah, il est où ce Dvar Torah ? Il est dans mon cerveau. C'est-à-dire que dans ma tête, j'ai des mots de Torah. Alors, puisqu'on l'a expliqué dans le chapitre 5, que la Torah et Dieu c'est une seule chose, ben, ça veut dire que c'est comme si que j'ai Dieu dans ma tête. Ça, c'est énorme. Il a expliqué comment la Torah peut nourrir l'âme. D'accord ? C'est une notion qu'on avait expliquée très longuement. Donc, en tout cas, c'est un moyen de communication. Comment la Neshama communique avec Dieu ? Au travers de la Torah, et bien sûr, au travers des mitzvot. Donc, la Torah, c'est principalement lié au cerveau. C'est le cerveau qui communique avec Dieu. Et les mitzvot, c'est principalement lié au reste du corps. D'accord ? Je dis principalement parce qu'il y a des exceptions, mais c'est principalement lié au reste du corps. Ça, c'est les moyens de communication qu'on a avec Dieu. En bien comme en mal. D'accord ? C'est-à-dire que c'est valable et dans les forces du bien et dans les forces du mal. C'est les moyens de communication, c'est au travers de ce que la Torah me dit que je peux faire et ce que la Torah me dit que je n'ai pas le droit de faire. C'est comme ça qu'on communique avec Dieu. C'est les vecteurs avec lesquels on communique avec Akadosh Baruch Hu. D'accord ? Donc ça, c'est le chapitre 1 au chapitre 5, très important. Avant de rentrer même dans le champ de bataille, on doit d'abord comprendre qui c'est qui est dans ce champ de bataille. Dans ce champ de bataille, on a l'âme divine, l'âme animale. On a expliqué leur structure, 10 facultés. On a expliqué qu'on pouvait contrôler l'expression. Et on a expliqué que les moyens de communication qu'il y a avec Dieu sont au travers de la Torah et des mitzvot. Enfin, pas encore. En chapitre 6, on a expliqué qu'est-ce que c'est l'âme animale. Comment ça, en fait, j'ai déjà expliqué à l'oral. Donc l'âme animale, on a expliqué qu'elle a la même composition que l'âme divine, c'est ce que je viens d'expliquer, la même structure. Sauf que, c'est quoi à quel moment l'âme animale, la nefesh à behemith, rentre en jeu, c'est lorsque, d'accord, behemith, on l'appelle en général, ou bahamith, il y en a qui disent bahamith. Ouais. Mais bon, en général, on dit behemith. Ouais. C'est lorsque on fait, donc ici j'ai écrit les activités mondaines, hein, lorsqu'on est occupé avec tout ce qu'on fait dans la journée, comme on a expliqué, ça c'est là que l'âme animale entre en jeu. Bon. Ensuite, passe chapitre 7 à chapitre 8, donc on est toujours dans les acteurs. Si vous suivez dans le grand tableau. D'accord ? Donc là, si on reprend le grand tableau, on a les acteurs. Donc dans les acteurs, on a la composition, l'âme divine, l'âme animale, leur conception, Donc les 10 facultés internes, les moyens d'expression, les 3 moyens d'expression, et les moyens de communication avec Dieu. En dessous, on a les acteurs externes. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent en dehors de moi que je n'ai aucun contrôle. Jusqu'à présent, on parlait de ce qui se passait à l'intérieur. Donc à l'intérieur, j'ai une âme divine, j'ai une âme animale, j'ai 10 facultés, j'ai moyens d'expression, mais tout ça c'est interne. Après, il y a des choses qui sont... Et après, il y a d'autres facteurs qui sont externes. C'est quoi les facteurs externes? Bien sûr, on a la Kdusha, mais c'est pas ça. Enfin, sur ça, il n'y a pas de combat. C'est la Klipat Noga et les 3 Klipot. La Klipat Noga, c'est ce qui est neutre. Par exemple, voilà, j'ai un café devant moi. Ça, c'est neutre. Si je vais faire une bracha avec, et je vais utiliser ces forces-là pour faire un cours de Torah, très bien. Bah, l'énergie qui est dedans se transforme en bien. Mais si je vais utiliser ce café-là pour aller faire une bêtise, je prends de l'énergie pour faire une bêtise, bah, malheureusement, c'est le contraire qui va se passer. D'accord? Donc ça, c'est des facteurs, c'est des acteurs externes. Ça veut dire, c'est des choses qui sont en dehors de nous. La Klipat Noga et les 3 Klipot. Alors là, on a expliqué longuement. C'est quoi la Klipat Noga et les 3 Klipot? Donc il y a des choses qui sont neutres, comme le café qui est devant moi, comme un gâteau, que bon, je peux l'utiliser pour faire des bonnes choses, je peux l'utiliser pour faire des mauvaises choses, je fais ce que je veux. Mais après, on a expliqué qu'il y a le mal absolu. On a appelé ça les 3 Klipot. 3 Klipot, c'est un terme qui revient dans la prophétie d'Ézéchiel. Hein, c'est pour ça qu'on appelle ça les 3 Klipot. Ça, c'est le mal absolu. C'est quoi le mal absolu? Par exemple, toute chose que la Torah nous a interdit. Par exemple, le cochon, il avait donné l'exemple du cochon. Quelqu'un va dire oui, moi le cochon, je veux le transformer en bien. Il dit non, tu peux pas. Pourquoi tu peux pas? Parce que ça, c'est du mal absolu. Le mal absolu ne peut pas se transformer en bien. Tant que ma chef n'est pas là, on peut rien faire. D'accord? Pour l'instant, il est absolu. D'accord? Pour l'instant, il est absolu. Donc ça, c'est... On reprend le grand tableau. Ça, c'est les acteurs. Ça, c'est relativement facile. Ça, c'est les acteurs. D'accord? Donc, les acteurs, on a expliqué l'âme divine, l'âme animale, leur conception et les acteurs externes. D'accord? Maintenant, il faut parler du combat. D'accord? Et là, le combat, il a commencé à expliquer à partir du chapitre 9. Quel est le combat? Maintenant qu'on a compris qui est sur le champ de bataille, quel est le combat? Mais comme j'ai promis, à la fin de la première feuille, mes questions pour ceux qui ont des questions.
Lorsque l'on dit que, lorsque tu écris que dans le Nefesh HaBe'ami, on a la même chose que la composition de l'âme divine, ça veut dire que la branche numéro 6, on peut la dupliquer avec la branche numéro 3 à 5, ça veut dire avec la structure de l'homme, les facultés, etc.
Même chose, et ouais.
Voilà. Alors comment est-ce qu'on avait dit, enfin comment on avait illustré, on va dire Torah ou Mitzvot, mode de communication, Torah ou Mitzvot, dans Nefesh HaBe'ami?
Non, ça en fait, non oui, j'ai compris la question.
C'est pas, Peut-être c'est pas, moi j'ai mal compris, juste pour savoir. Comment à quel niveau ça se reproduit? Ça se réplique ou alors ça s'arrête à un moment?
Ça se reproduit au niveau de mitzvot négatif. Que même l'âme animale, quand elle fait des averot, qu'est-ce qui définit une avera? C'est au travers de Torah et mitzvot. C'est-à-dire, en d'autres termes, la communication que l'homme a avec Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui définit si la communication est bonne ou mauvaise?
Ouais.
Donc, pareil, c'est une structure commune. Qu'est-ce qui définit si elle est bonne ou mauvaise? C'est Torah et mitzvot. Si je fais une mitzvah positive, ben la communication est bonne. Si je fais une mitzvah négative, la communication est mauvaise. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent nous paraître mauvaises, pour autant, elles ne sont pas mauvaises, parce que Dieu n'a pas dit qu'elles sont mauvaises. Donc c'est pour ça que je voulais dire quand j'ai dit que ça fait partie de la même conception. C'est-à-dire que l'âme divine et l'âme animale utilisent le canal de la Torah et des mitzvot pour définir le bon et le mauvais. Toujours. C'est la même structure. Ils empruntent les mêmes chemins. Autre question?
La notion des facultés, quand tu dis chacun il est composé de différentes choses, ensuite on a toute latitude pour les exprimer ou pas les exprimer,
oui.
C'est notre choix.
On les exprimer dans 3 vecteurs.
Avec 3 vecteurs, la parole,
les vêtements,
la pensée, ouais. Les vêtements, ainsi de suite. Est-ce que les facultés, ça peut s'apparenter aux potentialités?
Les potentialités en général, ça s'apparente aux facultés.
Donc c'est ça. C'est
ouais.
Ça.
Oui. J'ai entendu.
Donc
ouais.
Les 10 facultés dont on a parlé, ce sont les
oui.
Potentialités.
Oui, oui.
C'est un peu ça.
Ce que j'ai au fond de moi. Bon,
on a ça, mais
ça, je donne l'exemple de la colère.
À nous de les développer ou pas.
Oui. Mais l'expression, c'est autre chose. C'est rien à voir. Pensée, parole et action, personne peut me contrôler. Je peux toujours me contrôler. Ça, c'est une constante qui est très très importante. Que je peux toujours me contrôler.
La colère, on l'avait plutôt assimilée au code des élèves.
Ça, c'est encore autre chose, mais j'ai pas remis ici dans ce tableau. C'est autre chose, oui. C'est aussi des 4 éléments. Tout est composé des 4 éléments. Autre question?
Monsieur, vous avez une question? Faut la poser?
Non,
parce que c'est le moment des questions. Nous, on a attendu.
Autre question? C'est bon? Est-ce que? Quoi? Bon, très bien. Maintenant, on passe à la page suivante.
T'as
pas posé tes
questions? Non, je pensais qu'on trouvait les compris.
Allez.
Je crois que t'es pas bon.
Non, alors, posez mes questions.
Quand tu dis
troisième question.
Non.
l'âme divine, c'est quand on fait Torah et Mitzvot.
Oui, oui.
Oui.
Et tu as dit, tout le reste, c'est, on est comme un animal.
Tu as déposé la question.
Oui, mais c'est ce qu'on t'a pas répondu. Je la repose encore. Un individu, c'est pas parce qu'il fait pas Torah et Mitzvot que c'est un animal.
J'ai pas dit que c'est un animal.
Non, mais quand on appelle animal.
Oui.
Ça veut pas dire comme un animal.
J'ai dit que quand je dis âme animal, c'est-à-dire que ça représente pas la spécificité du juif. Donc c'est comme un animal, c'est pas sa spécificité. Il a rien de particulier par rapport aux autres, par rapport aux animaux. Ouais, bon, appelle-la comme tu veux.
Non, c'est pas...
Qui a dit qu'un animal c'est mauvais? Les animaux c'est des créatures d'Akadosh Baruch Hu.
C'est mauvais, mais je veux dire un individu lorsqu'il fait un plan d'architecture, il compose une symphonie ou il fait un film.
Oui.
Un animal il fait pas ça.
Alors.
Bon.
Très bien. Bon, alors, ça change pas. On n'est pas en train de dire que l'homme est un animal, chas v'shalom. On a dit que l'homme... Ouais, bon, donc, désolé, c'est pas ce que... Oui, à part ça, autre question.
Merci
pour la précision.
L'intellectuel en trois étapes. Conception, perception et attachement. Pourquoi tu mets perception? Puisque ça correspond à la compréhension. Pourquoi tu mets pas compréhension?
Parce que la compréhension, elle peut exister au premier niveau aussi. La perception, c'est lorsqu'on perçoit la chose, c'est-à-dire que là, on la comprend beaucoup mieux. Enfin, c'est les définitions qu'on avait données à l'époque. Hein. Ça, je me suis pas dit ce qu'on avait donné à l'époque.
Oui, oui. Mais est-ce que Bina, c'est bien le fait de comprendre la chose?
Oui, mais c'est le fait de comprendre de manière très profonde. De voir la chose à 100%.
Parce que perception, c'est plutôt, tu as l'information de quelque chose, mais tu sais pas exactement comment tu l'as eu, tu l'as perçu, mais tu l'as pas compris encore, perception. Non. C'est après que tu vas la comprendre.
C'est quoi la traduction? C'est quoi la définition de perception?
C'est quelque chose qui arrive comme ça, mais tu l'as pas analysé, tu l'as pas rentré, tu l'as pas réfléchi, tu connais pas.
Dans ce cas-là, c'est une mauvaise traduction.
Parce que souvent, perception, c'est ce qu'on pourrait, enfin en français je te parle, hein. En français, perception, ça correspondrait plutôt à conception, c'est-à-dire ce fameux lumière, cette perception,
flash,
ce flash, non. C'est une perception.
Non. Écoute, on verra après le cours la définition. Vous regardez, monsieur Blasi, ça ne vous dérange pas la définition de perception?
Bataille.
Ah, merci.
Parce que ça ne va pas tarder, le temps juste de passer.
Alors, on passe ensuite à la page suivante.
Très bien.
Une autre question.
D'accord.
Hazak, merci.
Merci pour tous ces exercices.
Ça va?
On aime bien quand tu poses des questions organisées, monsieur.
Non, c'est des bonnes questions.
Ah, t'avais encore une question? Organisé.
Non.
Finalement, c'est bien quand tu me retiens.
Oui.
C'est mieux, c'est. Vas-y, c'est bien quand tu me retiens. Il a bien posé, calme et tout. Que comme ça, quand je réfléchis.
Alors, c'est quoi les trois clipotes?
Oui.
Les trois clipotes, on a expliqué, c'est tout ce qui ne peut pas se transformer en bien.
Pour l'instant.
Tout ce qui n'est pas neutre. D'accord? C'est-à-dire, c'est le mal. Tout ce qui est interdit. Alors les trois clipotes, c'est le mal. Quand par exemple quelqu'un il fait une avéra, il ne peut pas dire non mais je vais transformer ça en bien. Non, il n'y a pas transformé ça en bien. C'est interdit, c'est fini. D'accord. Donc ça c'est les acteurs externes.
Alors, il n'y a pas de définition.
Tu es ? J'ai pas compris.
C'est quoi les trois ?
Les trois clipotes, la définition des trois clipotes, c'est le mal absolu.
D'accord, mais c'est des qualités.
Non, j'ai dit que la raison pour laquelle on appelle ça trois clipotes, c'est un nom qui a été donné par Ézéchiel par rapport à une vision qu'il a eue. Il a vu en trois images. Trois dimensions, si tu veux. Ouais.
La transgression des mitzvot, ça ne figure pas parmi les clipotes.
Bien sûr. Clipotes. Quand je transgresse une mitzvot, je suis dans le mal absolu.
Oui, mais quand je fais tshuva, je les fais grâce à ces transgressions.
Non, dans ce cas-là, je récupère les trois clipotes.
Mais tu as dit que c'était impossible.
Non. Quand je fais une avéra, j'alimente les trois clipotes. C'est fait, c'est fini.
Et comment je peux alors...
On verra après. Ça n'y est pas encore. Ouais, ça c'est autre chose. La teshuva, on n'a pas encore parlé de teshuva, c'est encore un autre sujet.
La teshuva a la possibilité de prendre des clipotes.
Oui, c'est une bonne question, mais on n'en a pas parlé, ça c'est dans la suite.
C'est dans la suite.
Voilà. Ensuite.
Donc, perception sur le premier sens, le moins connu, action de recueillir des deniers, des impôts.
Je vais pas avoir...
Perception,
c'est pas le
premier son. Hein.
Oui, bon, bien sûr,
sens.
D'accord, oui.
Maintenant, le terme philosophique, c'est acte par lequel l'esprit aperçoit l'objet qui fait impression sur les sens. Toute sensation, tout phénomène de sensibilité spéciale ou générale se compose de trois actes différents, l'impression, la transmission et la perception.
Voilà. Donc la perception c'est plus fort.
Mais non, mais c'est les sens.
C'est ce que je viens de dire alors. Bon, okay. Je sais pas, on verra après. Bon, on trouve une autre traduction. Hein. C'est les notions qu'on avait étudiées ensemble. Hein.
Ouais, je crois qu'on va tout recommencer là.
Bon, maintenant après, on passe à la page suivante. Page suivante, donc vous avez 9 à 17, la guerre des âmes.
Ah. Fallait bien, sur le bataille, il y avait bien une guerre, faut pas oublier.
Il a dit, c'est le match entre qui et qui?
Ce soir, je sais pas.
L'Espagne et le Chili.
Bon.
Ah, Espagne-Honduras.
Vous avez rien perdu, j'ai...
Non, c'est...
Bon. Alors ensuite, on a parlé du combat. Maintenant qu'on a compris les acteurs, à partir du chapitre 9, on explique quel est le combat. quel est le combat entre l'âme divine et l'âme animale? D'accord. Donc les gens, bien sûr, toujours on a l'habitude de traduire. C'est quoi l'âme divine? Allez messieurs, c'est quoi l'âme divine? C'est quoi l'âme animale? L'âme divine, elle veut faire du bien, l'âme animale veut faire du mal. Hein? L'âme animale veut faire du mal, je trouve encore une autre explication pour dire l'âme animale. L'âme divine veut faire du bien, l'âme animale veut faire du mal. D'accord, c'est comme ça qu'on a l'habitude d'expliquer. Mais c'est pas ça le combat. C'est pas ça le combat. Il expliquait dans le chapitre 9, il a expliqué longuement. C'est quoi le combat? Le combat, écoutez bien, c'est contrôler le corps, et il a appelé ça la petite ville intérieure. Ah, oui. Alors ça c'était intéressant, parce qu'on avait expliqué. On avait expliqué que le corps d'un homme est comparé à une petite ville. Et de la même manière que quand on a une ville, on a des fois des gens qui veulent prendre le contrôle de la ville. Qu'est-ce qui se passe? Dans la ville, on a des dirigeants. Et quand il y a un roi qui va venir et qui va attaquer la ville, il ne veut pas attaquer les gens de la ville.
Il faut détruire le roi.
Il veut détruire le roi pour prendre lui le contrôle de la ville. On est d'accord? On allait expliquer avec ça pourquoi on avait ramené dans la Gemara, dans plusieurs endroits, que le corps d'un homme est comparé à une ville. Et que le combat entre le Yetzer Tov et le Yetzer Hara, c'est quoi? C'est qui va prendre le contrôle de cette ville. C'est-à-dire que la ville est la même. C'est quoi la ville? La ville, c'est notre vie. C'est quand on vit, quand on mange, quand on boit, quand on dort, c'est nos facultés. D'accord? Ça, c'est nos facultés, la bonté, la rigueur, toutes nos facultés internes. C'est quoi la guerre qu'il y a entre l'âme divine et l'âme animale? La guerre qu'il y a, c'est qui va prendre le contrôle de ce corps. Alors, de la même manière que dans une ville, des fois, on peut avoir une victoire partielle, des fois, on peut gagner un petit peu, pas beaucoup, etc. De la même manière, dans le corps, des fois, le Yitzhara, il peut gagner un peu, il peut gagner une chose, perdre une autre chose. C'est exactement la même chose dans notre corps. On a un corps, on a des facultés, bonté, rigueur, etc. Donc, on a toutes ces facultés qu'on a expliquées, sentimentales et intellectuelles et sentimentales. Et il y a une guerre constante entre le Yetzer Tov et le Yetzer Hara pour prendre le contrôle du corps. Par exemple, qu'est-ce que dit la Gemara Brachot? Elle dit, lorsqu'une personne il sent qu'il a une pensée mauvaise qui lui vient dans la tête, qu'est-ce qu'il doit faire à ce moment-là? Il doit étudier la Torah. Pourquoi étudier la Torah? Pourquoi en étudiant la Torah ça repousse? C'est très simple. Parce que quand tu étudies la Torah, tu encourages, tu aides l'âme divine à prendre le contrôle de la pensée. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Une guerre constante. Qui va prendre le contrôle de la petite ville intérieure? Alors c'est pour ça qu'on a expliqué que quand on dit dans le schéma Israël, on dit Ve'afta et Hashem Elokecha bechol levavcha, tu aimeras Hashem ton Dieu de tout ton cœur. Qu'est-ce qu'il dit la Barashi? Melek Marabrachot, qui dit Vishne Yetzerecha, ça veut dire qu'il faut servir à Kadosh Baruch Hu avec tes deux Yetzer, avec ton Yetzer Tov et ton Yetzer Hara. Alors il avait expliqué ça veut dire quoi de servir à Kadosh Baruch Hu avec son Yetzer Tov et son Yetzer Hara. Il a expliqué ça veut dire ça. Ça veut dire qu'une personne doit savoir qu'il a constamment le Yetzer Tov et le Yetzer Hara qui sont en train de se battre, et l'homme doit gérer ce combat. Et il doit s'arranger pour que celui qui va gagner, c'est le Yetzer Tov. C'est-à-dire en d'autres termes, je vais bien expliquer ce que je suis en train de dire. En d'autres termes, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, tu te lèves le matin, t'as un combat qui est déjà là en train de se passer à l'intérieur. C'est ça ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'il y a un combat. Je vais reprendre l'exemple de la ville. Imaginez-vous qu'autour de la ville, vous avez déjà deux grandes armées qui sont en train de se battre sur la ville. C'est pas moi qui les ai amenées. Elles sont déjà là. Depuis que je suis né, elles sont là. Bah, elles sont en train de se battre. Sauf que moi, j'ai la possibilité de renvoyer une armée. Ou les deux. Je peux renvoyer, ça c'est une capacité que j'ai. Bon, ça on retrouve pas dans l'exemple. Moi j'ai une force, j'ai une arme, je tire, j'enlève une arme. J'enlève une armée. Ça c'est mon arme. C'est ça ce qu'il a expliqué. C'est quoi le combat? C'est qui va prendre le contrôle? Donc nous, on doit faire tout notre possible pour que c'est le Yetzer Tov, bien sûr, qui prend le contrôle du corps. Maintenant, ça c'est l'objectif. Si vous suivez le grand tableau ou le petit tableau, enfin suivez ce que vous voulez. Ça c'est l'objectif. L'objectif c'est de prendre le contrôle du corps. Maintenant, comme dans toute armée, dans une armée, il y a des divisions. Et il y a les divisions d'élite, il y a les divisions, je ne sais pas comment on les appelle, ceux qui sont tout en bas. Hein? En Israël, on les appelle les jobniks.
Ceux-là, ils sont nulle part.
C'est quoi les jobniks? Les jobniks, c'est...
Les mecs qui bossent dans les bureaux.
Les mecs qui bossent dans les bureaux avant qui tapent à l'ordinateur.
Les informaticiens.
Ah non, pas du tout. Ça, c'est l'unité d'élite. Les administratifs, on les appelle? Bon. Oh, mais j'ai pas envie de me moquer des administratifs, hein. Juste en Israël, on les appelle comme ça.
Non, mais il en faut.
Bien sûr qu'il en faut. Il faut des tout pour faire un monde.
Mais c'est planqué, quoi.
C'est la planque, quoi. C'est qui veut. Tu peux pas prendre de risques. Alors. Donc, de la même manière qu'on a, l'objectif, c'est ça. L'objectif, on a expliqué, c'est de contrôler l'expression du corps. Vous voyez, j'ai bien écrit. Contrôler l'expression du corps. On peut pas contrôler les facultés, on peut contrôler l'expression du corps. Très bien. Maintenant, les divisions. On a trois divisions. Bien sûr, avec des sous-divisions sans fin. Sadique, Racha Benoni.
Racha, c'est pas
d'accord.
Le Rav. Hein.
Pardon?
Racha, c'est pas le Rav. Le Rav, non?
Le?
Il y a un Rav qui s'appelle Racha.
Non, Rachar.
Non, le Rachab. Non, Rachab.
Rachab?
Rachab, c'est méchant. C'est...
Rachab. Alors.
Rachab.
C'est celle.
Non, ça c'était pour le mail.
Donc on a les divisions. Alors écoutez bien. Et c'est là qu'on va comprendre. C'est là que la Gemara Zakken a mis les premières graines pour expliquer. C'est une notion qui est revenue plusieurs fois par la suite, qu'on baisera Tachem, on décortiquera la semaine prochaine. Mais c'est là que la Gemara Zakken a mis les premières graines pour expliquer le fait que le tzaddik est carrément dans une autre planète. Il n'a rien à voir avec tout. Pourquoi? On a expliqué que la force du tzaddik, c'est quoi la force du tzaddik? Le tzaddik, lui, on va appeler ici le Superman, d'accord? Le tzaddik, il a la possibilité de contrôler à 100% et les facultés internes et leur expression. Ça veut dire que le tzaddik, non seulement qu'il arrive à bien s'exprimer, en pensée, en parole, en action, mais il a réussi à transformer son fort intérieur, qu'au fond de lui, aussi c'est bon. Imaginez-vous quelqu'un qui est nerveux, par exemple, il a réussi à enlever la colère. Ça, c'est le tzaddik. Encore une fois, de 99,9% des gens, n'attend pas de ça, et ils peuvent pas le faire. Pourquoi on n'attend pas ça d'eux? Parce qu'ils ne peuvent pas le faire. On ne peut pas transformer. On peut réussir à canaliser quelque chose, ça on peut réussir. On peut réussir à voir, qu'on avait expliqué dans le chapitre 15, on peut réussir à avoir une seconde nature. Seconde nature, mais c'est une seconde nature. La force du tzaddik, c'est que lui, il a le contrôle complet. Il a le contrôle complet, total et des expressions, c'est-à-dire comment il s'exprime, pensée, parole et action, et de l'intérieur. Contrôle complet à 100%. Ça, c'est le tzaddik. D'accord? Ça, c'est extraordinaire. Alors, bien sûr, après, on avait expliqué, il y a tzaddik vetovlo, tzaddik veralo. Ça, c'est la Gemara Nida qui avait expliqué. On avait un tzaddik parfait et un tzaddik imparfait. C'est quoi la différence entre le tzaddik parfait et le tzaddik imparfait? On a dit, le tzaddik parfait, c'est celui qui a réussi à tellement repousser le mal, qu'il y a un dégoût absolu du mal. Alors, imaginez-vous à quel point il a repoussé. C'est pas seulement que quand il veut faire une avéra, il dit, bon, je la fais pas. C'est que ça le dégoûte à 100%. Attention à la fin de la feuille.
C'est ça la force. Régler les règles.
Ça c'est le tzaddik. D'accord? Le tzaddik imparfait, le tzaddik parfait, c'est celui qui a réussi à repousser entièrement. Il a réussi à repousser entièrement à tel point qu'il a un dégoût absolu du mal. On a aussi le tzaddik imparfait. C'est quoi le tzaddik imparfait? C'est lui qui a réussi à transformer son fort intérieur, mais quand il voit le mal, il n'a pas envie de le faire, mais il n'a pas un dégoût. Bon, ça ne lui dit rien. Vous savez, des fois, il y a des choses, ça ne me dit rien. Ça ne veut pas dire que je suis dégoûté, ça ne veut pas dire que j'ai envie de cracher dessus.
Il résiste.
D'accord? Non, il résiste, non. Ça, c'est le Benoni qui résiste. Non, le Tony qui résiste, ça ne l'intéresse plus. D'accord? C'est pas qu'il a un dégoût. D'accord? Il s'est tellement contrôlé, le Tzaddik parfait, il s'est tellement contrôlé, qu'il est complètement changé, que ça le dégoûte et ça ne lui vient même pas à l'esprit. L'autre, bon, ça ne l'intéresse pas. Ça, c'est le tzaddik imparfait, mais c'est déjà pas mal. Après, on a le rachat, malheureusement. Alors, le rachat, j'ai écrit ici out of control, et lui, il a perdu tout le contrôle. Ni contrôle ses facultés internes, ni contrôle leur expression. On avait expliqué, c'est dans ce chapitre qu'on avait expliqué, dans le chapitre 11, on avait expliqué que le rachat, hein, des fois, il peut se prendre dans son jeu, et qu'après, il arrive malheureusement à une situation dans laquelle il n'arrive même plus à se contrôler. Normalement, par définition, l'homme peut toujours contrôler ses expressions. Je peux toujours contrôler pensée, parole et action. On a expliqué que le rachat, des fois, tellement il a fait d'averot qu'après, à Kadosh Baruch Hu, une des punitions qu'il lui donne, c'est qu'il n'arrive plus à se contrôler. Et qu'il faut une teshuvah extraordinaire qui est pratiquement impossible. Qui est possible, mais pratiquement impossible. Il faut qu'il renverse les terres. D'accord? Ça, c'est le rachat, malheureusement. Ça veut dire, encore une fois, le tzaddik, il a pris le contrôle et sur les facultés internes et sur leur expression. Contrôle total. Le rachat, malheureusement, le rachat absolu,
il a perdu
tout contrôle. C'est fini, on le dirige comme on veut. D'accord? Alors après, on a expliqué, de la même manière dans le rachat, il y a le rachat imparfait, et le rachat, j'ai pas envie de dire parfait, mais... Comment on peut dire le rachat, total? J'ai pas envie de dire parfait, j'ai pas envie de dire le mot parfait. Hein? Rachat absolu, bon... Donc le rachat absolu, c'est celui que bon, il a tellement fait d'avéros qu'il a perdu le contrôle. C'est fini. Il n'arrive même pas. D'accord? Le rachat imparfait, il a expliqué la Gemara Zakken. Ça, en vérité, c'est la majorité des hommes rentrent dans cette catégorie. La majorité des hommes rentrent dans cette catégorie. C'est-à-dire que bon, après, bien sûr, il y a des niveaux. Les gens qui font une avéra par année, et les gens qui font une avéra par jour, et les gens qui font une avéra par heure. Ça s'appelle toujours, et la, d'après ce qu'il a expliqué, ça rentre toujours dans la catégorie d'un rachat imparfait. Ah oui? Et c'est quoi le Benoni? Alors c'est là, en chapitre 12, il a expliqué quelque chose de très très fort. Il dit que dans la tête des gens, les gens ils pensent que c'est quoi la différence entre tzadik, rachat et Benoni. Tzadik, c'est le juste, rachat, c'est le mécréant, et Benoni, c'est celui qui est au milieu. Comment les gens ils traduisent ça en général? Ils disent oui. Le tzadik, c'est celui qui a plus de mérite que de... Au contraire, celui qui a plus de mitzvot que d'averot, le rachat, ils te disent oui, c'est celui qui a plus d'averot que de mitzvot, et le benoni, c'est celui qui est moitié-moitié. Là, Rabbi Morazakan avait expliqué longuement, plusieurs preuves de la Gemara, pour expliquer qu'on peut pas dire qu'un benoni fait d'averot. Pour la preuve ultime, c'était quoi? C'était que Rabba, c'était une des preuves. Rabba se croyait benoni. Or, on sait que Rabba, il n'a jamais fauté. Pourquoi il n'a jamais fauté? Tout simplement parce que Rabba, on nous dit que sa bouche ne s'arrêtait jamais d'étudier. D'abord, on sait que c'est un tzaddik, c'est écrit plusieurs fois dans la Gemara. Mais à part ça, il n'avait même pas le temps de fauter. Même s'il voulait fauter, il n'avait pas le temps, il était constamment en train d'étudier. Donc, il a expliqué que cette définition que les gens donnent, tzaddik, rachat, benoni, que tzaddik, celui qui a plus de mitzvot que de averot, rachat, celui qui a plus d'averot que de mitzvot et benoni, c'est entre les deux. Il a dit que c'est une définition qui n'est pas fausse, mais c'est un shem amushal, c'est un nom emprunté. Ça veut dire quoi un nom emprunté? C'est un pseudo que les gens donnaient par rapport, parce qu'on compare par rapport au jugement d'en haut. Quand on va arriver en haut, si la personne a plus de mérite que de Averot, on dira bon, Gan Eden, on va faire un peu de nettoyage avant, mais Gan Eden. Si la personne a plus de Averot que de Mitzvot, on dira bon, dans ce cas-là, Gainom, bon, il a un peu de mérite, on va lui donner, mais Gainom. Et si la personne est entre les deux, qu'est-ce qu'on lui fait? Il redescend. C'est pour ça que les gens disent que c'est ça de Tzadik, Rachat, Benoni. Mais en vérité, la vraie traduction de Tzadik Rachat Benoni, c'est pas ça. Tzadik, comme on vient d'expliquer, c'est quoi Tzadik? C'est celui qui a un dégoût parfait, ou pas à 100%, ou pas à 100% du mal. Il a un contrôle complet sur les facultés internes et sur leur expression. Rachat, une seconde, c'est celui qui a perdu le contrôle. Et c'est quoi le Benoni? Le Benoni, c'est celui qui ne contrôle pas ses facultés. Il n'a pas la possibilité de contrôler ses facultés, ça veut dire qu'il ne peut pas contrôler ce qu'il a à l'intérieur de lui. Et comme il a expliqué dans le chapitre 12, il a dit c'est possible que toute sa vie va se battre sur la même chose. C'est la première fois qu'il a dit. C'est possible que toute notre vie, on va se battre sur la même chose. Un peu décourageant. Bon, après, il faudra nous encourager un petit peu. C'est possible que toute sa vie va se battre sur la même chose. Alors, c'est quoi son combat, alors? Il dit ton combat, c'est pas pour gagner la guerre. Ton combat, c'est pour faire tout ton possible pour pas la perdre. Tu peux pas la gagner. Ah, c'est dur, ça, c'était... Ça, c'est expliqué dans le chapitre 12.
C'est un lundi, rachat.
Il avait donné l'exemple, pour donner un exemple, pour expliquer comment ça pouvait des fois être très dur. Il avait amené l'exemple de Yosef à Tzadik avec ses frères. Lorsque Yosef a retrouvé ses frères en Égypte. Enfin, ils sont venus le voir. Qu'à ce moment-là, Yosef, s'il voulait... On sait que c'est un Tzadik, mais juste pour nous donner un exemple, pour s'imaginer. À ce moment-là, Yosef, s'il voulait, il pouvait se venger de ses frères, vraiment comme il voulait. Et il aurait pu... Non, même pas venger. Il aurait pu les punir. Et il aurait pu le faire. Ça avait expliqué qu'on aurait pu trouver des moyens, qu'il aurait pu le... Comment dire, comme il avait dit là-bas, les lamettes de l'écart. Il aurait pu leur apprendre la leçon. Que, vous avez vu comment vous m'avez jeté dans un puits, vous voulez me tuer, etc. Il aurait pu. Il s'est retenu et tout ce qu'il a fait, il a fait pour aider ses frères. On avait expliqué longuement, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Il a expliqué de la même manière, ça c'est vraiment un exemple dans lequel on voit qu'est-ce que ça veut dire le contrôle de soi. Se contrôler. Bien sûr, Youssef est un sadique. Mais c'est un exemple qu'il a donné. Donc nous, dans quoi on doit se contrôler? Bien sûr, on doit se contrôler sur toutes les mises à toutes les avérotes. Et il a expliqué, même sur des avérotes qu'a priori on pourrait faire, que c'est des avérotes que la Gemara Brachot a dit que c'est des avérotes qu'on fait constamment. C'est très difficile de s'en sortir. Comme quoi, hein? Comme par exemple, Iyun Tfila. Qui c'est qui peut dire qu'il a fait cette Tfila avec concentration à 100% de A à Z? C'est pratiquement impossible. D'accord? Bitul Torah, bien sûr. Bitul Torah, ça veut dire le fait qu'un moment où j'aurais pu étudier la Torah, j'ai pas étudié. Qui peut dire qu'il a étudié la Torah à chaque moment qu'il pouvait. Et troisième chose, c'était Hiro Ravera, une pensée de Avera. Et que même sur ces trois choses-là, le Benoni est constamment en train de se battre. Ça, c'est le Benoni. Mais le Benoni, c'est quelqu'un, d'accord, qui ne fait pas d'Avera. Dans les faits, il ne fait pas d'Avera. Il a envie d'en faire, mais dans les faits, il ne fait pas d'Avera. Donc ça, c'est le Benoni. Maintenant, on parle quelle heure il est? Encore du temps? Allez. Enfin, on va prendre le grand tableau, 9 à 17. Donc 9 à 17, prenez la troisième colonne. On est 13 à 17. Benoni, le héros du Tania. Vous avez... Non, dans le petit tableau. Là. Enfin, petit tableau, le détail. Benoni, le héros du Tania. Ah oui, parce que c'est le héros. Le tzadik, c'est facile. Une fois qu'on a pris le contrôle de la ville, c'est facile de la contrôler. Et là, le problème, c'est quand on est en guerre et qu'on arrive à ne pas perdre la guerre, c'est encore plus dur. Vous voyez ce que je veux dire? Le tzadik, ah, il a gagné la guerre en 2-3 mouvements, après c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. D'accord. Alors que quand tu me dis que t'es constamment en guerre, et dès que t'as un moment d'inattention, pac, on te tombe dessus, c'est très dur. Et c'est un plus grand exploit. Ça, c'est un vrai héros.
C'est ma question.
D'accord.
Je suis là.
Donc, Benoni, c'est le héros du Tania. Chapitre 13, il a expliqué, non, c'est un instinct. Ah, c'est il a expliqué, mais attention, pensée, parole, action, on peut contrôler. Alors, Benoni, le héros du Tania. Dans chapitre 13, si on peut définir en un mot le chapitre 13, il a expliqué ce que la Gemara, j'oublie quelle Gemara c'était, qui avait dit Afilu kololam kulom remilcha tzadikata et yebenecha kerasha. D'accord? Alors, la Gemara avait dit que même si tout le monde te dit, voilà, ah, c'est ici. Ah, c'est à la fin du troisième chapitre de Nida. Donc il avait expliqué là-bas, d'accord? La Gemara avait dit que même si tout le monde te dit que tu es tzadik, tu dois toujours te considérer comme un rachat. Alors dans le premier chapitre, on a posé la question, on avait dit, mais attends, comment je peux me considérer comme un rachat? Si une personne se considère comme un rachat, il va être déprimé. Et c'est là que la Demoiselle a dit, non, je t'ai expliqué, c'est très très simple, ça veut dire comme un rachat. On s'adresse au Benoni. On dit que pourquoi le Benoni, on l'appelle comme un rachat? Parce que fonctionnellement, le Benoni et le Racha sont exactement les mêmes. Fonctionnellement, c'est les mêmes. Les deux n'ont pas le contrôle des facultés intérieures. C'est pour ça qu'on dit comme un Racha. Ayez Benecha Keracha. C'est pour le rappeler au Benoni, lui dire, écoute, même si ça fait des années que tu es religieux, mais sache que tu n'as pas gagné la guerre. Et que fonctionnellement, tu es toujours comme un Racha. Et il suffit d'un moment d'inattention, et tu seras comme l'autre. C'est-à-dire, c'est pas pour le déprimer qu'on lui dit ça. Quand on lui dit au Benoni, qui est 99,9% des gens, on lui dit, prends-toi comme un Racha. C'est pas pour le déprimer qu'on lui dit ça. C'est pour lui dire, écoute, tu n'as pas gagné la guerre. Dès que tu as un moment d'inattention, c'est fini, tu vas tomber. Sauf que, comme on a expliqué, bien sûr, le cerveau du Benoni, ça c'est la première fois qu'on a donné cette notion, Moach Shalit à la lèvre. Que Dieu nous a donné une force à tous les hommes, que le cerveau peut dominer, peut contrôler le cœur. On l'a dit avant sous une autre forme, qu'on peut contrôler les trois modes d'expression, mais là il a dit plus en détail, c'est un enseignement de Rabbeinu Bechaye, qui dit que Moach Shalit à la lèvre, Betul Dato, que par définition, le cerveau maîtrise le cœur. C'est-à-dire que jamais une personne pourra dire c'est pas de ma faute. Non, c'est impossible. C'est toujours de ta faute. Adam Mouad Leolam, comme on l'a appris il n'y a pas longtemps dans Baba Kama. Un homme est toujours responsable. Ben Er, Ben Yashen. Que ça se peut, peu importe s'il est réveillé, s'il est en train de dormir. C'est la Gemara Baba Kama à propos des dommages. La Gemara dit qu'un homme est responsable même quand il dort. Pourquoi il est responsable quand il dort? Parce qu'à lui de faire attention. Imaginez-vous que quelqu'un il dort, sans faire exprès, il donne un coup sur quelque chose dans son sommeil, il casse quelque chose. Il est responsable. À 100%. Pourquoi il est responsable? Parce qu'il avait capable de dormir là-bas. On fait attention où on dort avant de dormir. Un homme, c'est pas un animal. D'accord? Ah. C'est pour toi, ça. Un homme, c'est pas un animal. Donc, c'est ce qu'on a expliqué ici. C'est quoi le Benoni? Le Benoni, c'est celui qui est justement Adam Mouad Leolam, celui qui est là constamment en train de calculer, constamment en train de réfléchir, constamment en train de faire attention. Il doit constamment prévoir où je vais, quand je vais, où je vais en vacances, qui je vais voir, qu'est-ce que je vais faire, constamment. Bah, c'est facile de revenir après à Rosh Hashanah et de dire « Ah, j'ai fauté ». Trop facile. D'accord? Ah, je ne donne pas d'exemple. D'accord? Trop facile. Non! C'est quoi le Benoni? C'est quoi le Benoni? Le Benoni, c'est celui qui prévoit. Et que même si malheureusement il n'a pas le choix, pour X ou Y raison, il doit partir à certains endroits, il va prévoir, il va anticiper comment faire pour que ce qui doit arriver n'arrive pas. D'accord ? Ensuite. Donc ça c'est ce qu'on a expliqué dans le chapitre 14. Le chapitre 14 c'est « Tout juif peut être Benoni ». Personne ne peut dire « C'est pas pour moi ». D'accord ? Personne ne peut dire « C'est pas pour moi ». Je vois encore des erreurs de frappe. Là. Bon. Donc tout humain peut empêcher ses pulsions avec un S à venir en exécution. D'accord ? S'il y a des fautes de frappe, dites-moi, comme ça, au moins, je les corrige. toute personne peut empêcher. D'accord ? C'est comme ça ce qu'on a expliqué dans le chapitre 13 et 14, je l'ai expliqué déjà. Ensuite, dans le chapitre 15, on a expliqué que dans les Bénonis, on a deux catégories. On a le Bénoni bosseur et l'habitué. Vous vous rappelez ça ? On a expliqué, il y a des gens qui naissent avec une nature, des gens qui sont soumis. C'est des gens que depuis qu'ils sont petits, toujours, font leurs devoirs, ils n'ont jamais eu de problème, ils écoutent à l'école, ils écoutent leurs parents. Ils n'ont jamais, d'accord ? Ils ne posent pas de questions. Comme voilà, c'est le blond, on va l'appeler.
Le blond.
D'accord ? C'est des gens qu'ils ont appelés Betiva Marashrora. C'est-à-dire quoi ? Des gens que par définition, ils n'ont pas envie de faire des bêtises. Il y a comme ça des fois, quelques élèves, dans une, même à l'école, dans les classes, on peut voir déjà. Il y a des fois des élèves comme ça, tu les vois, ils n'ont pas envie de faire des bêtises, ça les intéresse pas, ils sont pas attirés. Ça, les autres, ils se retiennent, ils sont là, c'est dur, les devants, etc. Lui, c'est un blond. D'accord ? Il est là constamment en train de faire ses trucs sans poser de questions. Ça veut pas dire qu'il est sadique. Ça veut pas dire qu'intérieurement, il a changé ce qu'il devait changer. Non, il a rien changé, mais le boulot est très facile pour lui. C'est quelqu'un que c'est possible que jusqu'à la fin de ses jours, il va pratiquement jamais se battre avec son Yetzer Hara. Il n'y a rien qui l'intéresse. Mais c'est là le problème. Il n'y a rien qui l'intéresse. Puisqu'il n'y a rien qui l'intéresse, donc du coup, même les mitzvot qu'il va faire, il va rentrer dans un style de routine. C'est une routine. Il ne pourra jamais apprécier les mitzvot parce qu'il l'a fait, parce qu'il a l'habitude de la faire, il n'y a pas de combat. Là, il a expliqué, vient la majorité des Bénonis qui rentrent dans la catégorie des bosseurs, ceux qui se battent. Alors c'est vrai que c'est beaucoup plus dur, parce que quand on se bat, forcément, il y a toujours des fois où on perd. C'est sûr, ça. Quand on se bat pas, il n'y a pas de faire. Mais quand tu te bats, on peut pas gagner toujours. On peut, mais bon, dans les faits, on ne gagne pas toujours. Mais ce qu'il a expliqué, c'est que quand on se bat, on peut aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que celui qui se bat pas. Il avait amené l'exemple de la Gemara. La Gemara Baba Kama qui avait dit que ils avaient l'habitude à l'époque qu'une personne qui fait que quand on... Les taxis de l'époque, c'était des ânes. D'accord ? Les taxis de l'époque, on prenait des ânes. D'accord, c'était les taxis de l'époque. Et il y avait un forfait, qui était, je crois, un zouz. Il y avait un forfait de un zouz pour celui qui voulait faire un truc comme 30 km. D'accord ? Si tu fais 31, tu passes au double, tu passes à deux zouz. Ah ben là, qui m'a posé la question, dit pourquoi ? C'est pas normal. J'ai rien rajouté, j'ai rajouté un petit peu. Elle a pas avec Marathi, elle dit c'est très simple. Elle dit parce que l'habitude des chauffeurs de taxi de l'époque, c'était de faire un maximum de telle distance. S'ils faisaient cette distance, ils avaient le temps de rentrer chez eux le soir, etc. Dès que toi tu viens, tu disais, mais je rajoute un kilomètre, c'est tout. Il y a des limites. Il y a des limites qui ont été fixées. Dès que tu dépasses cette limite, ça veut dire que tu vas chambouler complètement le planning du chauffeur de taxi. Donc il dit, dans ce cas-là, c'est pas une journée que je te facture, c'est deux journées que je te facture. D'accord ? Pourquoi ? Alors, c'est là qu'il a expliqué. Il a expliqué que selon cette Mara, que le plus dur, hein, que finalement, combien j'ai rajouté ? J'ai rajouté même pas quelques centaines de mètres. Et pourtant, tu dis non, ça y est, tu payes le double. Pourquoi ? Parce que le plus dur, c'est l'effort de faire plus que son habitude. C'est ce qu'il a expliqué dans le chapitre 15. Le plus dur, c'est de faire plus que son habitude. Ça veut dire qu'une personne qui a l'habitude d'étudier 10 heures par jour, et on lui dit maintenant tu vas étudier 10 heures et 1 minute, ça va être très dur pour lui. D'un autre côté, une personne qui a l'habitude d'étudier une heure par jour, et tu lui dis tu vas étudier une heure et une minute, ça va être très dur pour lui. Il a ramené la Gemara là-bas qui disait qu'à l'époque, on révisait, combien de fois on révisait ? 100 fois. Et celui qui, et la Bala Gemara a dit, Shaftem Uritem, Ben Oved Elokim, la Cher Loavado. Entre une personne qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Qui c'est qui sert Dieu, qui c'est qui ne le sert pas ? Et la Gemara dit là-bas, dit, celui qui sert Dieu, c'est celui qui révise 101 fois, et celui qui ne le sert pas, celui qui révise 100 fois. Attends. Qu'est-ce qu'il sort ? Elle explique, c'est très simple. Et celui qui révise 100 fois, c'est l'habitué. Hey, c'est devenu une habitude, c'est plus un effort pour lui. Il s'est habitué depuis qu'il est né, il fait. Donc puisqu'il est habitué, il fait ça depuis qu'il est petit, donc on l'appelle pas Oved Elohim. On dit pas qu'il fait d'Averot.
100 fois quand même.
D'accord ?
C'est bourgeois.
Il connaît 100 fois Mamash.
Ouais, donc 100 fois, c'est d'accord. Une habitude, 100 fois Mamash.
Si, parce qu'à l'époque, on n'écrivait pas à l'époque. On devait tout retenir. Pas oublier qu'à l'époque, il n'y avait même pas 5% du peuple juif qui était dans les yeshivot. Les autres. Et à l'époque, on était soit très intelligent, soit très bête. Il n'y avait pas de Benoni. On le voit dans l'histoire, hein. C'est aujourd'hui que Baruch HaShem, la majorité des gens peuvent comprendre. À l'époque, c'était pas comme ça. Jusqu'à il y a quelques centaines d'années, c'était encore comme ça. C'était soit on était très intelligent, soit très bête. Et on le voit clairement dans la Gemara, ça. Enfin. Alors, je reviens à notre sujet. Donc, Ben Oved Elohim, la chair l'avado, rappelez-vous. Celui qui révise 101 fois, ça veut dire celui qui dépasse son habitude, celui qui casse son habitude, comment on l'appelle ? Oved Elohim, celui qui sert Dieu. Pourquoi on dit celui qui sert Dieu? Parce que c'est l'effort qui compte. D'accord? Et donc c'est là dans le chapitre 15 qu'on a fait, c'est là qu'on a fait, dans le chapitre 15, qu'on a expliqué la différence entre le bénoni bosseur et l'habitué. Et on a expliqué que même celui qui est habitué, celui qui est né religieux, que bah au Christ, ça a toujours été facile, il doit toujours chercher à aller plus loin. Parce que sinon il n'est pas Obed Elohim. Sinon il est religieux, il arrivera en haut, on ne lui dira rien. Mais il n'est pas Obed Elohim, il n'est pas en train de servir Dieu. C'est quoi servir Dieu? D'accord? On ne lui dira rien.
Même pas servir, on ne lui dira rien.
Oui, il ne sait pas travailler. Il est né dedans, c'est facile. Normal, ouais, il fait Shabbat, c'est normal.
Il est tombé dans la...
D'accord? Jamais son Yetzara, il vient, aujourd'hui on va allumer la lumière. Jamais il va dire son Yetzara. Donc c'est pas un effort pour toi. C'est quoi le Oved Elohim? Celui qui se dépasse. Ça c'est le troisième point qu'on a expliqué par rapport au Benoni. D'accord? Ensuite, chapitre 16. Donc toujours on est dans la définition du Benoni. Appréciation intellectuelle de Dieu. Alors ça on a expliqué encore autre chose. Ça c'est un point très important dans la Chassidoute. On dit que même lorsqu'une personne sent qu'il est à côté de la plaque, qu'il se dit, mais attends, qu'est-ce que je veux mettre à réfléchir à Kadosh Baruch ou à qu'est-ce que Dieu représente pour moi? Mais je suis en train de me battre avec déjà des choses très très basses. Des choses très très basses. Qu'est-ce que je vais mettre maintenant à réfléchir à Kadosh Baruch Hu et les Sfirot, etc. Un peu ce qu'on fait dans le cours de Tania. Je suppose que c'est un sentiment des fois qu'on peut avoir en sortant d'un cours de Tania. On dit, mais attends, mais qu'est-ce que je perds mon temps ici avec ces trucs-là? Je sais pas que je perds mon temps, mais c'est pour les tzadikim, ça. Qu'est-ce que... Nous, on se bat avec des choses beaucoup plus basses que ça. Ça, c'est chapitre 16. Chapitre 16, il a expliqué que le Benoni, c'est quoi le mot d'ordre du Benoni? C'est que même s'il ressent rien du tout, il doit tout faire pour méditer à Kadosh Baruch Hu. Et c'est la clé du succès. C'est... Dans l'exemple de la guerre, c'est comme si une personne qui est constamment en train d'essayer de gagner la guerre, et constamment il doit essayer de faire des stratégies de guerre. Même s'il n'a pas gagné jusqu'à présent. Et c'est possible qu'il ne gagnera pas. Mais c'est la seule chose qui peut le maintenir en vie et lui permettre de voir l'objectif. C'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps, même dans la Torah, on passe beaucoup de temps dans la Torah à essayer d'expliquer les mitzvot, essayer de comprendre, etc. C'est pour ça. Pour nous maintenir en vie, pour qu'on continue à bosser. C'était chapitre 16. Très beau chapitre. Ensuite, on a expliqué dans chapitre 17 l'arasoto. D'accord? Là, l'arasoto, il a expliqué comment ça se fait que le qu'on a dit kikarov elecha davar meot beficha ou bilvafra l'arasoto. Qu'est-ce qu'avait dit Akadosh Baruch Hu à Moshe Rabbeinu? Il a dit Moshe Rabbeinu, il s'adresse au peuple juif, il leur dit kikarov elecha davar meot, il servira Akadosh Baruch Hu par la pensée, la parole et l'action. Qu'est-ce qu'il a expliqué? Il a dit c'est Kikarov et Lecha, c'est accessible. Il dit, mais comment c'est accessible? C'est un travail d'une vie, c'est même pas sûr qu'on va réussir. C'est quoi cette histoire que c'est facile? Mais j'en nous dit Kikarov et Lecha. D'accord? Mais comme la Gemara pose la question là-bas, la Gemara Brachot, même bête, pose la question, elle dit, mais attends, elle dit, est-ce que Moshe Rabbeinu il parle pour lui? C'est quoi c'est facile? C'est pas facile? C'est quoi cette histoire? Et là, la Gemara Zaken, bon, après la Gemara explique beaucoup de choses, mais la Gemara Zaken a expliqué, selon la Gemara bien sûr, il a expliqué que pourquoi on dit que c'est accessible, pourquoi on dit que c'est facile, d'accord? Parce que, changer sa nature, c'est sûr que c'est très difficile. Mais par contre, se contrôler et aimer Akadosh Baruch Hu, là c'est là qu'elle a donné la nouvelle définition, aimer Akadosh Baruch Hu, ça c'est facile. Là on commence à consoler le Benoni, on dit écoute, on te dit pas que tu vas changer ce que tu as à l'intérieur, c'est pas sûr, c'est pas dit que tu vas changer ce que tu as à l'intérieur, mais par contre, si tu travailles bien, tu pourras arriver à un certain moment à un sentiment d'amour vers Akadosh Baruch Hu, te sentir proche de Dieu. On n'a pas dit que tu vas tout changer à l'intérieur. Mais tu pourras arriver à un certain moment à un sentiment de proximité avec Akadosh Baruch Hu, d'amour. Et ça, c'est pas rien. Quand on a ce sentiment, ça nous encourage, ça nous booste. C'est ça Kikarov Elecha. Kikarov Elecha davar meot beficha ou lofra la soto. De quoi il parle le pasouk? Il parle de Avat Hashem, d'aimer Akadosh Baruch Hu. Et sur ça, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ça c'est accessible. C'est accessible pour toi. Comme on l'a expliqué, donc ça c'est l'arme. Ça c'est l'arme ultime qu'on va avoir contre le Yetzer Hara. Les seules armes qu'on va avoir contre le Yitzhara, c'est l'amour et la crainte. Là, jusqu'à présent, donc là, à partir de ce chapitre, du chapitre 17, enfin 18, pardon, jusqu'au dernier chapitre, on va expliquer, justement, comment on utilise ces armes. Donc, si je reprends l'exemple de l'armée. D'accord? Seconde, bien sûr. Si je reprends l'exemple de l'armée. D'accord? Donc, dans la première colonne du grand tableau. D'accord? La première colonne du grand tableau. On a expliqué les acteurs. Donc l'âme divine, l'âme animale, leur conception, leur moyen d'expression, les acteurs externes, ça c'est... Avant même de commencer le combat, c'est qui va jouer? C'est qui les joueurs? D'accord? Quelle équipe contre quelle équipe, c'est qui les joueurs? Ça c'est la première colonne. La deuxième colonne, on a parlé du combat. D'abord on a expliqué l'objectif du combat. Après on a expliqué les divisions. Dans les divisions, on avait... Donc l'objectif du combat, c'est de prendre le contrôle du corps. Chacun essaie de prendre le contrôle du corps. Les divisions, c'est... Tzadik, Racha, Benoni. D'accord ? Okay. Donc les différentes manières de servir Kadosh Baruch Hu. Et là maintenant on va parler des armes. D'accord ? Il y a l'objectif, il y a la division, maintenant il y a les armes. C'est quoi les armes ? Quelles armes on utilise pour combattre ? D'accord ? L'arsenal, ouais. C'est quoi l'arsenal ?
Une équipe,
non, on n'est pas encore. C'est une équipe, l'arsenal ?
Je crois, ouais.
Alors c'est quoi les armes ? D'accord ? Alors c'est intéressant ce qu'il va expliquer ici. Parce que depuis le chapitre, après on aura les questions de Jacob. Certainement c'est intéressant. À partir du chapitre 18 au chapitre 25, d'accord ? On va expliquer comment les armes les plus importantes pour combattre le Yetzer Hara sont l'amour et la crainte de Dieu. D'accord ? Et que pour arriver à ça, on va expliquer comment en vérité toute la Torah tourne autour de cet axe-là, l'amour et la crainte. Et que ça c'est l'arme ultime pour se battre contre le Yetzer Hara. Mais avant de passer à la suite, on a la question de Yaakov.
Alors, j'ai deux questions.
Quelle heure vous avez d'abord, s'il vous plaît ?
Toujours après que lorsque tu fais une mitzvah, par exemple, tu ne dois jamais dire je fais la mitzvah parce que ça me dégoûte ou ça j'aime pas, etc. Mais on dit tu fais la mitzvah justement parce que c'est Hachem qui te l'a demandé.
Oui.
Et là, c'est étonnant parce que le tzaddik, on dit qu'il a le dégoût et le rejet du mal.
Oui.
Tu vois, donc c'est contradictoire.
Mais ça veut dire justement, c'est pour ça qu'on dit que le tzaddik a moins de mérite que le.
Pourquoi tu l'appelles Superman ? Appelle le man. Le Superman, c'est le Benoni en réalité.
Parce que dans les films, le Superman, c'est celui qui fait des choses qu'on peut pas refaire.
C'est naturel.
Oui, mais en principe, quand un individu a des capacités, c'est à lui qu'on a des difficultés.
Oui. Lui, je l'appelais le héros. Le héros. C'est le héros.
Oui, parce que.
Bon, on change les noms si tu veux.
Non, parce qu'en principe.
Ouais, Yako, il fait des diyukim. J'ai pas écrit Tania, hein. Moi, j'ai juste essayé de.
C'est même dire. Non.
Bon, attendez, posez les questions que vous voulez. Bon, je comptais finir jusqu'à la fin,
non,
mais.
Non.
Vous savez quoi, on va pas se prendre la tête. On va pas précipiter. On a pris 4 ans. D'accord. On va faire, je pense, en 3 cours le résumé. Voilà. Donc, la semaine prochaine, voilà, on va prendre le temps qu'il faut. D'accord. Maintenant, je continue à poser vos questions.
Donc, je continue alors. Donc, si tu veux ce.
Donc, alors, tu continues alors.
Un individu qui a des capacités. Donc, j'imagine que. Tzadikim, ils ont des néo neshamot, etc., extraordinaires, etc. Donc, ils ont des capacités. On devrait leur donner des missions difficiles. Alors là, tu as l'impression que si tu mets le Yetzara, tu le.
Mais qui t'a dit qu'ils n'ont pas des missions difficiles ?
Je te pose la question. Si tu prends le Yetzara et que tu l'attaches, etc., après le reste, c'est sympa. Tu gères
je
la
t'expliquer. Communauté. Ils ont pas. Les Tzadikim,
ils vont. Je te vois, je t'envoie ta main, etc. Excuse-moi.
D'accord.
Mais les
Tzadikim ont plus de responsabilités que les autres. Ils ont des missions plus complètes. Écoute bien ce que je te dis. Sauf toi qui aimes la définition. Ils ont des missions qui sont plus complexes mais moins difficiles.
Plus complexes mais moins difficiles.
Ouais.
Oui, moins ardues.
Non, parce qu'ils arrivent à les faire. Ça prend du temps. Un Tzadik, il n'a pas les mêmes projets que nous. Il y a des projets beaucoup plus grands, beaucoup plus complexes. Mais c'est pas difficile pour lui.
Non, c'est comme si tu veux, des fois, je vois des gens, par exemple,
ils en ont les compétences.
Ils ont réussi. Et on dit, tu sais, il a réussi.
Il a percé,
mais tu sais, mais il ne travaille pas très. Attends. Il travaille énormément. Hein. Il travaille 4 heures par jour. Mais moi, j'en connais des tas de gens qui travaillent 4 heures par jour pour gagner des milliards. Mais qu'est-ce que le gars, il est fils de coiffeur ou de balayeur. Avant qu'il réussisse à ce polytechnique, il faudrait vraiment qu'il ait des capacités, tu comprends ?
Alors bon.
Bon. Tu comprends ce que je veux dire ?
Alors tu veux dire quoi par là ?
Alors je veux dire que souvent, bon, mais c'est bien la responsabilité, etc. Tout le monde pourrait avoir ça.
Oui.
Tu vois ? La difficulté, c'est d'essayer de se.
Vous comprenez. La question que tu poses, c'est pourquoi Kadosh Baruch Hu a créé certaines personnes comme ça, d'autres personnes comme ça. Ça, c'est la semaine prochaine.
Ok, alors deuxième question.
Deuxième question.
Tu dis par exemple, c'est étonnant ce que tu dis. Tu dis.
Dis plutôt, j'ai pas compris, toujours, habitue-toi.
Oui. C'est l'Admorazaken. C'est étonnant.
L'Admorazaken.
C'est facile.
L'Admorazaken, excuse-moi, je te coupe deux secondes. L'Admorazaken, quand il a posé la première question qu'il a posée dans le Tania, il a pas dit Vekaché. Il a dit Vetsarich Leavin. Il faut comprendre. D'accord. Allez, dernière question, après les autres.
D'accord, ok.
Oui.
Tu dis c'est facile d'aimer Dieu.
Oui.
Comment l'individu fait pour savoir que. C'est vraiment un sentiment qui est réel ou c'est une interprétation. Soit parce que.
Troisième feuille, 18-25. C'est une très bonne question.
Ouais, les bonnes soeurs, elles
sont oui, j'ai compris.
Dieu, etc., mais j'aime Dieu, etc. Bon. Alors on se dit, tiens, c'est bizarre le truc. Et pourtant, elles sont persuadées qu'elles aiment Dieu. Ouais. Donc comment tu sais à un moment donné que vraiment c'est un vrai sentiment et que c'est pas du cinéma ?
Chapitre 18. On verra la semaine prochaine. Résumé. Azak. Ah, c'est une bonne question, mais on verra tout ça la semaine prochaine. Donc c'est une suite, vous voyez, là maintenant, on vient de voir aujourd'hui comment il y a vraiment une suite. Si il y a vraiment une structure.
Est-ce qu'on termine ce soir ? Si on pose des questions. Si
non,
on
non,
pose pas
c'est,
questions.
Non, c'est l'heure. Non, j'ai pas envie de bâcler.
C'est pas la question de bâcler.
C'est quoi ?
C'est la question d'avoir une vue d'ensemble et après se revoir peut-être la semaine prochaine.
Voilà,
et...
la vue d'ensemble, tu l'as ici. Tu as les acteurs, la conception, les acteurs externes, le combat, l'objectif, les divisions, les armes, le dépôt d'armes.
Tu disais tout à l'heure.
Non, il faut plus de temps, j'ai pas envie de bâcler, c'est dommage.
Tu disais tout à l'heure.
S'il n'a pas fini la mission, Dieu peut ramener la Neshama, on peut faire redescendre la Neshama.
Oui.
Il a les deux. Comment c'était leur pour les Téléphones qui sont finalement, il n'y a pas besoin, c'est bien que par leur statut, il n'y a pas besoin de redescendre la Neshama. Mais pour autant, on dit que quel tzadik il avait la Neshama de telle autre personne.
Encore une fois, parce qu'un tzadik il a une mission. Par exemple, Moshe Rabbeinu, sa mission c'est d'être le chef de la génération. Donc chez tous les dirigeants de la génération, Moshe Rabbeinu, il y a une étincelle de Moshe Rabbeinu qui va descendre, parce que c'est sa mission. Oui, ça veut dire qu'il n'a pas fini sa mission, mais c'est pas un défaut qu'il n'a pas fini sa mission, parce qu'il ne pouvait pas la finir. Tu comprends ?
Alors qui finit la mission ? Quand tu dis, tiens, il rentre au Gan Eden, est-ce que quand on rentre au Gan Eden, on a fini la mission ?
Si on a fini la mission, on rentre au Gan Eden. Mais après, il y a le concept d'étincelle. Oui. C'est qui la fin.
Donc finalement, on ne rend au Gan Eden que le Benoni au moins.
Non, c'est-à-dire aussi.
Le rachat.
Même Moshe Rabbeinu, par exemple, il est. Je t'expliquais. J'ai compris ta question. Moshe Rabbeinu, par exemple. Oui, il rentre au Gan Eden à terme. Moshe Rabbeinu, par exemple. D'accord ? Moshe Rabbeinu, il est au Gan Eden. D'accord ? Le Gan Eden, mais il y a une parcelle de sa Neshama qui descend. Il y a une parcelle de sa Neshama qui descend dans chaque génération. Mais il est au Gan Eden. Encore une fois, c'est parce que sa mission ne s'arrête jamais. C'est ce que je veux dire.
Je me demandais s'il n'y avait pas forcément le rachat parcelle. Par exemple, de redescendre perpétuellement jusqu'à monter au degré.
Ça dépend. Des fois, on décide dans le ciel. Des fois, on décide dans le ciel qu'il doit redescendre. Des fois, on décide de le nettoyer en haut et de le laisser comme ça. Parce que si on pense qu'il fera plus de dégâts en bas. Ça dépend, c'est les calculs du ciel.
Tant qu'il n'est pas forcément nettoyé, ou bien il y en a qui arrivent au
Guéhenna. Non, personne ne reste au Guéhenna. On reste un an maximum au Guéhenna. 11 mois. Oui. Après, c'est le ciel qui décide. Autre question ? Quoi ? Pas encore, c'est après.
On avait dit que le 17, ça servait en fait au 16.
Le 17.
On aimait à Kadosh Baruch Hu. Si on avait atteint les capacités...
Ici, j'ai appelé ça dans le grand tableau, j'appelais ça les armes. C'est-à-dire que ça veut dire que l'amour de Dieu, c'est lui, l'amour et la crainte de Dieu, c'est eux qui vont me permettre de gagner la guerre. C'est une arme.
On n'avait pas dit qu'il y avait une bombe entre le cerveau et le cœur. Et quand le cerveau était à la limite de sa capacité, on déclenchait l'amour de la Kadosh Baruch Hu.
Chapitre 18. Rêve Tov, Julien.
On n'avait pas dit ça.
Chapitre 18.
C'est pas 17.
Tu peux le voir tout de suite dans chapitre 18. Voilà, regarde. Chapitre 18, on en a parlé. Le potentiel du don de soi, l'amour secret, etc. Tout ça, c'est expliqué en chapitre 18. On verra ce prochain matin.